France Culture. Tout de suite, la série musicale. Zoé Sfèze.
La série musicale Zoé Sfèze.
Bonjour et bienvenue dans une émission libre, une émission funk qui s'offre un hommage et vous offre une heure de radio sur la musique et en musique, la série musicale saison 4, c'est la fin presque déjà, bienvenue. Saison 4 est toujours de la très bonne musique. Il existe deux types de musique noire. La musique noire d'avant Sly Stone et celle d'après. C'est ce qu'écrivait Joel Selvin, musicologue et biographe de ce musicien si génial et si difficile à cerner pourtant, que l'Europe ne connaît pas si bien. Alors on pourrait le croire partisan évidemment, il écrit un livre sur lui. Mais quand on sait que George Clinton, considéré comme le père fondateur de la funk, le leader de Funkadelic et Parliament, bien plus célébré car en fait bien plus productif au cours de ces dernières années, considérait Sly Stone comme le plus grand musicien funk de toute l'histoire, eh bien on est tenté de les croire, tous les deux musiciens surdoués. Sly Stone, de son vrai nom Sylvester Stewart, a radicalement changé, grâce à son oreille magique, mais aussi grâce à sa vision, l'histoire de la musique américaine. Au cours d'une carrière relativement courte, trop courte, mais charnière. Avant même le début de la lutte pour les droits civiques, il va monter un groupe qui réunit des musiciens noirs et des musiciens blancs, des hommes et des femmes, Sly and the Family Stone. Il abolit, ce faisant, toutes les frontières qui existent à l'époque, les frontières des esprits américains qui sont encore plongés en plein imaginaire de la ségrégation, mais aussi concrètement celles d'une industrie musicale qui était à l'époque, rappelons-le, hyper segmentée. Il fait aussi exploser les limites du son. Tout simplement. Si certainement vous connaissez tous à l'oreille, sans même savoir parfois que c'est eux, les tubes Family Affair ou Everyday People, vous n'imaginez pas à quel point ce groupe et la musique de Sly ont profondément infléchi le son des formations les plus célèbres de leur temps, des Temptations aux Jackson 5, de Herbie Hancock aux Supremes, et influencé longtemps après la fin d'une carrière qui s'est terminée, on peut le dire, un peu trop tôt. Car après avoir été un icare finalement de la musique, le batteur Questlove, qui a consacré un documentaire à Sly Stone, estime qu'il a dû souffrir de ce fameux fardeau du succès, si classique et qu'on retrouve si souvent chez les musiciens noirs, puisque Sly Stone, après avoir volé si haut, s'est brûlé les ailes, plongeant dès le mi-temps des années 70 dans une lutte acharnée contre la drogue, la violence, la paranoïa. Soutenu quand même par ceux qui voyaient en lui le père fondateur du funk, il va mener une carrière en dents de scie assez décevante au cours des 40 dernières années avant de s'éteindre le 9 juin dernier. Ironie du sort, sa disparition est presque éclipsée par celle d'un autre musicien, à ses cousins, actifs en même temps que lui, qui connut le même succès, le même génie et la même chute. C'est Brian Wilson à qui on consacrait la semaine dernière notre émission. Et parce que sa musique conserve un pouvoir fondamentalement magique, même 50 ans après sa création, et qu'on n'en finit pas de mesurer à quel point on lui doit tout ce qu'on écoute, on vous propose un portrait, un hommage, comme toujours non exhaustif et plus que jamais subjectif. Un hommage à Sly Stone, Icare de la funk, dans la série musicale sur France Culture.
Some bottom so that the dancer just won't hide.
One of the first black musicians to have a wide range of audience.
Sly, vous êtes l'un des premiers musiciens, des premiers groupes noirs à connaître autant de succès auprès d'un public de blancs. Pourquoi vous pensez que ça a marché? Je crois que ça a à voir avec nos chansons qui impliquent tout le monde. Nos messages qui concernent tout le monde. Tout le monde veut être heureux.
Be happy, and the songs that we do are
songs les chansons que nous faisons sont des chansons qui, selon moi, devraient rendre tout le monde heureux. Je pense que c'est juste ça.
You want to make people feel good with your
music. Vous avez envie que les gens se sentent bien avec votre musique, c'est ça? Vous appelez ça de la musique up?
So.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de produire une musique positive. J'ai pas envie de déprimer les gens. Parce que ce que vous mettez dans un morceau, c'est finalement ce que vous recevez en retour. Si vous mettez des choses mauvaises ou déprimantes dans une chanson, vous finirez déprimé.
I've been false accused so many times, I bear the blame. I'm gonna live a Christian life, God knows I'm not ashamed. You know I'm gonna keep walking, talking, praying, singing, teaching in my Jesus' name.
Vous écoutez ici le tout premier single créé par un Sly Stone enfant à peine adolescent. C'est un quatuor, The Stuart Four. la famille Stewart, ils sont quatre. Sylvester, son frère Freddy et ses sœurs Rose et Vaeta, ils chantent du gospel, tout simplement, évidemment, dans leur paroisse. Il y a ce 78 tours, Walking in Jesus' Name, marchant au nom de Dieu. Cette famille et ce garçon sont nés à Denton, dans le Texas, mais les parents, qui sont profondément religieux, s'installent à Vallejo pour fuir la ségrégation du sud des États-Unis. On sait que c'est une famille qui, à la fois, a une très forte tradition religieuse, évidemment, mais qui appartient tout de même à la classe moyenne et qui encourage profondément l'expression musicale, l'expression tout court de leurs enfants. Ils sont assez nombreux, ces enfants. Et Sylvester, qui est le second de la fratrie de cinq, se révèle dès ses 7-8 ans un espèce de prodige musical, puisqu'à 11 ans, il maîtrise déjà la guitare, la basse, la batterie. Il appréhende d'emblée, en fait, quand on commence à regarder l'enfant qu'il est, la musique comme une chose totale, c'est-à-dire qu'il maîtrise aussi bien les instruments harmoniques, mélodiques, que le rythme. La musique, toute sa vie, il la pensera comme un tout, comme une totalité, et sa capacité à composer, à penser des sons sera d'emblée totale avec ses frères et sœurs, donc il se lance comme bien des fratries, hein, bien des familles, fin des années 50, milieu des années 50, dans cette industrie très forte de la musique religieuse. On vous a déjà parlé de Sam Cooke et de tout ce qui se joue dans ces années où une partie du gospel aboutira au rock. Lui, ce qui caractérise Sly, et ça depuis toujours, c'est d'une part sa capacité à écouter absolument toutes les musiques, y compris les musiques dites de blanc, mais aussi assez vite, et ça c'est une expérience qui sans doute est fondatrice dans sa vie, à former des groupes avec des gens qui ne sont pas uniquement noirs. Et ça c'est grâce évidemment à la Californie, mais aussi probablement à sa personnalité, puisque dès qu'il a 16 ans, Sylvester va continuer à apprendre la musique et puis former un groupe avec des gens de son lycée, The Viscaines. C'est un groupe de doo-wop, majoritairement blanc, mais Sylvester arrive à l'intégrer avec un de ses meilleurs amis, qui lui est philippin, Frank Arellano. Cette espèce d'intégration dans un groupe comme ça, sans vraiment réfléchir, fait en fait office quand même de tendance pionnière. Il voit, il comprend, Sylvester, que ce groupe, qui est un peu colorblind, comme on dit à l'époque, va plutôt plaire auprès d'une jeunesse libérale, hein, qui est très locale et pas si importante que ça. Mais n'empêche, il enregistre et cette expérience va lui montrer qu'en réalité, il est possible de produire une musique qui parle à toutes les communautés. Son 650s qui emprunte autant aux traditions du gospel, hein. Évidemment, on a beaucoup d'harmonie derrière. Cette première expérience permet à Sylvester de même se lancer en duo avec son frère et même d'enregistrer en solo sous le nom de Danny Stewart. Vous allez entendre une chanson que nous, on trouve absolument délicieuse, While I'm Gone. Là, il a à peine 18 ans.
While I'm gone, try to remember to forget him. He doesn't love you. He doesn't need you like I do, just like I do. Fickle love or one that works full time, I've got to know. So I'm leaving for a week or so.
On adore ce son, qui a une grande pureté. Et si vous l'écoutez un peu, vous pourrez remarquer évidemment qu'elle emprunte autant à une tradition un peu gospel blues qu'à une vraie tradition folk, par exemple, dans le son de la guitare. Ce qui est fondamental à comprendre dans la vie de Sly Stone et comprendre à quel point son parcours est singulier, c'est qu'en parallèle de ses expérimentations en tant que musicien, il va se former à la fois en tant que disc jockey et en tant que producteur. Dans les années 60, il est engagé par une radio soul, une radio en fait de noirs américains, KSOL, qui, comme la plupart des radios à l'époque, dans une industrie hyper segmentée, ne joue que de la musique à destination des noirs, c'est-à-dire du gospel, du blues, évidemment, les débuts de Sam Cooke. Et lui, avec ce pouvoir de disc jockey, se met à diffuser les Rolling Stones, les Beatles, toute une série de musiciens plutôt blancs qui, selon lui, innovent. Cette programmation montre bien à quel point son oreille est ouverte. C'est comme ça qu'il va se lancer et qu'il est repéré par la maison de production Autumn Records. Il va signer et produire des groupes locaux. Il y a évidemment des chanteurs noirs américains comme Bobby Freeman, mais aussi des groupes blancs qui expérimentent beaucoup. Écoutez par exemple ici cet album de The Bo Brummels qui est directement inspiré du son des Beatles des débuts des années 60, la patte de Sly Stone, producteur à l'époque. Il ne s'appelle pas encore Sly Stone, il s'appelle Slyvester et non plus Sylvester, The Bo Brummels. I hate to say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you. I said, don't trust them, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who taught you how it feels to be lonely. Oh, so lonely. Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. Can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of nerve. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead. Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. The Bo Brummels, un son avec cette harmonica à la Dylan, mais ses guitares et ses voix très Beatlesiennes qu'on aime beaucoup. À la fin de cette expérience de producteur chez Autumn Records, Sly Sylvester Stewart va signer, en tout cas aider à enregistrer les premières sessions d'un groupe qui ne va pas vivre très longtemps. Il s'appelle The Great Society, mais il repose sur la voix d'une femme qui va devenir célébrissime dans un autre groupe, Jefferson Airplane, où elle va apporter ses chansons. Elle s'appelle Grace Slick et cette formation, The Great Society, contient en germe eh bien, toute la mouvance du rock psychédélique. Les chansons qui viendront célébrissimes avec Jefferson Airplanes. En fait, c'est bien Sylvester Stewart qui les enregistre lors de cette première session en 66. Cette chanson, vous la connaissez quasiment tous, Somebody to Love.
Somebody.
Alors, les légendes veulent que c'est avec son expérience avec ce groupe, The Great Society, que Sylvester Stewart comprend qu'il en a marre d'être producteur et qu'il veut faire son propre groupe. Il quitte la production après les 50 prises qu'il aura fallu pour enregistrer une version valable de la chanson Free Advice de ce groupe. Et puis, il a ce rêve dans ces années 66 où un vent souffle, un vent d'espoir, celui de réaliser un groupe qui serait un groupe équivalent aux Beatles, mais qui aurait toutes les couleurs. Il va donc monter une équipe totalement improbable dans ces années 60, et qui comporte des Noirs, des Blancs, mais aussi des femmes à des postes clés. Les femmes, à l'époque, surtout en plus dans ces formations à la fois de rock, où il y a des sons à la limite chanteuses solo, et dans, historiquement, l'industrie noire américaine, plutôt des choristes. D'ailleurs, il a beaucoup fait travailler ses sœurs comme choristes, il a monté plusieurs chorale de gospel avec ses sœurs. Là, l'idée, c'est d'avoir des femmes à des postes clés, et notamment à ce poste clé, celui notamment des cuivres. Ils vont engager une incroyable trompettiste, elle s'appelle Cynthia Robinson. Elle est une femme noire qui joue de la trompette, instrument normalement dévolu aux Blancs. Elle va vraiment être l'une des trompettistes les plus influentes, l'une des premières à rentrer au Rock'n'Roll Hall of Fame, grâce à cette expérience avec Sly and the Family Stone. Écoutez-la ici raconter ce qui se joue pour elle quand elle commence à répéter avec un Sly Stone qui met sur pied sa formation et qui, pour voir si ça fonctionne, a adapté une chanson de Ray Charles.
You don't have to be perfect to play with him.
En fait, ce qui avait génial, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour jouer avec lui. Il n'avait pas besoin d'avoir 50 minutes avec les musiciens pour que ça sonne juste. On est tous venus pour une répétition. Il a décidé ce qu'il avait envie de faire avec cette chanson, qui était une chanson de Ray Charles, qui n'avait pas une seule ligne de cuivre, d'ailleurs. Et il avait écrit comme ça une partition pour les cuivres qu'il voulait que Jerry et moi en jouent, Jerry Martini. Tout le monde à peu près avait la structure de ce qu'il avait en tête. Et puis quand on a commencé et qu'on a touché la première note, ma trompette est littéralement tombée de ma bouche. J'étais en mode « waouh ». J'étais en train de regarder tout le monde et je me disais « mais c'est fou ce son ». Et il me disait, mais joue, qu'est-ce que tu fous là? Tu joues pas? Mais moi, j'avais juste envie d'écouter ce qui se passait. Ça sonnait prodigieusement. J'avais jamais entendu des notes mises ensemble de cette façon.
Take my advice if you want a lover. I'm not going to be your brother. Are you afraid of what you might want to do? Or is reality hard for you? Oh,
Ah là là, incroyable ligne de horn, évidemment, de cuivre, de cette très courte chanson issue du tout premier album de Sly and the Family Stones, qui est donc cette tentative, en fait la jonction de deux groupes, celui de Sly Stone qui avait formé un groupe Sly and the Stoners avec Cynthia Robinson, rejoint par Freddie, et donc qui lui avait un Freddie and the Stone Soul, c'était le frère. Tout le monde se rejoint avec évidemment donc cette particularité qu'il y a des femmes, des noirs, des blancs, avec notamment la grande présence du saxophoniste Jerry Martini, et puis incroyable aussi, très important, section de Terry Graham. Un premier album qui, vous allez l'entendre, déjà est complètement fou parce qu'il montre bien ce qu'entend faire Sly Sylvester avec Sly Stone avec tout ça, c'est-à-dire une musique qui accueille tout le monde, une musique melting pot qui doit autant à la funk ou plutôt la proto-funk de James Brown à cette époque, à la soul évidemment, le son de la Motown est très important à l'époque, qui a des références presque de Broadway, de comédie musicale, mais évidemment une grande présence du rock psychédélique, qui comme on l'a entendu est déjà dans cette oreille de Sly Stone qui n'a aucun problème à s'approprier. Vous allez l'entendre dans cette magique chanson A Trip to Your Heart. Incroyable, Trip to Your Heart, un extrait, deux extraits hein, de leur tout premier album baptisé A Whole New Thing, quelque chose de tout à fait nouveau. Évidemment, beaucoup de choses sont nouvelles, ce mélange de psychédélique, mais surtout ces fameuses guitares wah-wah, des lignes de basse qui grésillent. Vous l'avez entendu, des bouts de musique a cappella, des bouts d'orgue qui évoquent des musiques d'église et qui rappellent la musique gospel. Tout ça avec des choristes, une grande diversité en fait, avec des chansons qui sont toutes différentes, chacun donnant chacun des groupes, hein, Freddie Stone, Larry Graham, Rose Stone, Sly Stone, apportant chacun les éléments de sa propre culture, avec une Cynthia Robinson en grande folie et qui, lors des premiers concerts, hurle pour interpeller le public en les invitant évidemment à bouger. Ce premier album n'a pas beaucoup de succès parce qu'il est très très étrange, mais il est salué par des musiciens et ça va être le cas tout le temps, c'est-à-dire au-delà des succès publics de Sly and the Family Stone, il va y avoir toujours une profonde influence sur sûr, les gens qui produisent de la musique à l'époque. Tony Bennett aime beaucoup ce premier album, mais il n'est pas assez grand public. Et donc, le producteur Clive Davis va leur proposer d'enregistrer une chanson, on va dire, plus populaire. C'est Dance to the Music, avec lequel on a ouvert cette émission, qui va, là, du coup, avoir un bien plus grand succès, décroche une 8e place au hit parade américain, ce qui est quand même déjà, à l'époque, assez énorme. Ce Dance to the Music va avoir un vrai succès public, mais il va surtout complètement changer la donne musicalement, avec une influence majeure sur toute une série de musiciens, notamment, par exemple, sur le producteur de la Motown. Le producteur de la Motown, à l'époque, c'est Norman Whitfield, c'est lui qui gère à la fois le son de The Temptation, des Supremes, de Diana Ross. On a quand même envie de vous donner à entendre concrètement ce que ça donne, cette arrivée de ce groupe. Vous allez écouter ici un album, justement, qui réunit Diana Ross et The Temptation. On est en 68, l'année de sortie de Dance to the Music, mais il n'y a pas encore eu de nouvel album. Écoutez le son des Temptation et de Supremes avant Sly Stone. Place in the Sun, dans cet album au demeurant délicieux, hein, de Diana Ross and the Supremes, joins the Temptation, l'union dans cet album des deux formations noires américaines les plus puissantes du temps. Quelques mois plus tard, entre-temps Sly and the Family Stone est passé par là, vous allez entendre les sons que proposent ces deux mêmes formations d'artistes, à commencer par The Temptation, qui, sous l'impulsion de Norman Whitfield, qui a entendu Sly and the Family Stone, va injecter clairement des éléments psychédéliques et créer la soul psychédélique sur ce morceau, Cloud Nine, qui va être récompensé par un Grammy.
We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat, my troubled man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world and that ain't no lie.
Ain't no lie.
It ain't even safe no more to walk the streets at night.
I'm doing fine on cloud nine.
Let me tell you about cloud nine.
Ouh, l'excellent Cloud Nine. Alors évidemment, dans le chant, on a une influence évidemment très proche évidemment de celle de James Brown qui explose en même temps. Il y a du Ike Turner, mais clairement, vous sentez cette influence. On donne raison à Joel Salvin quand il dit « Il existe deux types de musique noire, sa musique noire d'avant Sly Stone et celle d'après ». Sly Stone, quand on lui demandait quelle influence il pensait avoir sur les jeunes, répondait ceci.
Do you think about yourself ever as a influence on the young? You know, you have a great following, they listen to your records all, and they listen to the lyrics. And
everybody's an influence, I guess.
Moi, je pense que tout le monde est influencé par tout le monde. Oui, mais vous avez peut-être une influence sur les jeunes, concrètement. Je pense que tout le monde a une influence sur un certain nombre de gens. Dans notre cas, à nous, avec le groupe, je ne crois pas que ce soit nécessairement les plus jeunes qui sont sensibles, nécessairement. C'est plutôt les esprits des gens qui vivent, qui font de la musique. Évidemment, chronologiquement, on parle plutôt des jeunes, mais on parle aussi à des gens qui sont vieux, mais qui sont parfois plus jeunes que vous et moi dans leur tête.
Things you want are real.
You have you to complete, and there is no deal.
There's a midget standing tall,
and a giant beside him about to fall.
Stand, c'est le troisième album de Sly and the Family Stone. Lorsque Dance to the Music est sorti, la même semaine, le révérend Martin Luther King était assassiné. Ce troisième album, il va être porté, il va jouer un rôle fondamental en fait dans ce moment collectif que vivent les États-Unis et puis le reste du monde, puisque quelques temps après la sortie de cet album Sten, qui sort le 3 mai 69, se produit un événement majeur. Le 17 août 69, c'est à l'aube que le groupe se produit au festival de Woodstock. Woodstock qui va propulser Sly and the Family Stone en première ligne de ce mouvement hippie avec cette image incroyable, cette bande de filles, de garçons sur fond d'une musique improbable, totalement libre, qui mêle les meilleurs impros issus du rock et la sudation, la magie, le côté presque religieux de la soul music. Sly and the Family Stone qui va entrer dans la légende au cours d'un concert que vous pouvez regarder, hein, évidemment, vous le retrouvez sur tous les bons documentaires consacrés à ce festival. Vous verrez l'énergie incroyable d'un groupe qui n'a pas encore justement été exposé à un si gros succès. La chanson, le single de cet album qui va profondément marquer, d'ailleurs être repris à l'envi, si bien qu'il est fort probable que vous connaissiez cette chanson, mais pas dans leur voix, c'est « Everyday People ». l'explosion. L'explosion de Sly and the Family Stone. Avant le début des problèmes, Sly est déjà considéré un peu comme la tête pensante, hein, c'est vrai, de cette formation qui enquille les tubes qui ont des formes et des ampleurs totalement différentes entre Stand, New Politic et Everyday People, ce côté profondément solaire. Écoutez ce que Sly répondait quand on lui demandait comment il écrit les chansons.
Tell me something though, when you...
Je sais que c'est vous qui écrivez la plupart des chansons du groupe. Comment vous faites ? Vous vous asseyez comme ça et puis vous écrivez ? Ouais, parfois je m'assois. Oui, ça m'arrive de m'asseoir. Non, mais vous savez que Hemingway écrivait debout, par exemple. Vous, ça se passe comment, concrètement ? Il y a des gens qui écrivent debout et d'autres assis. Hein. Vous, c'est vrai, on ne vous voit pas assis. Moi, j'écris face au miroir. Je regarde mon miroir quand j'écris. Mais je comprends pas. Non, non, mais je suis très sérieux hein, quand je dis ça. Parce que je pense que le gros critique de mon travail, c'est moi-même. Et je peux réagir à ce que je suis en train de produire avant même de réaliser que je suis en train de produire quelque chose. Et je peux aimer ou pas aimer avant même de réaliser que je suis en train de faire quelque chose. Non mais je suis sérieux, hein. C'est plus facile pour moi que de dire l'alphabet. Mais vous êtes vraiment en face de votre miroir ou... Bah oui. J'écris à la fois les notes, les mots, les sections rythmiques. Et tout ça, je l'écris. Je suis en face du miroir. Mais je teste, je regarde. Et s'il se passe quelque chose de pas terrible, je suis en mode « boah ». Et après, je vais barrer ce que j'ai écrit. Mais c'est tout à fait naturel pour moi. Don't call me nigger whitey, don't call me whitey nigger. Une manière, dans cette chanson un peu drôlatique et en même temps complètement virtuose, d'avoir un message qui dit aux gens arrêtez de vous monter les uns contre les autres. Ces sons solaires, mais qui ont quand même un message, sont souvent en fait à double sens. Il y a beaucoup plus à creuser que ces sons extrêmement joyeux, cette utopie hippie qui va, et c'est toujours le paradoxe, hein, en même temps que le succès arrive, très vite se briser en réalité, puisque entre Woodstock et la fin de l'année 69, tout le monde se met à prendre de la drogue, ce qui alimente aussi des moments de paranoïa, et puis l'atmosphère aux États-Unis, ce temps évidemment. Écoutez, le batteur Questlove, immense batteur de hip-hop, hein, célèbre, qui a consacré un documentaire entier à Sly Stone, Sly Lives, alias The Burden of Black Genius, Sly vit en nous, le fardeau du génie noir, raconté comme l'ironie de Sly lui est apparue évidente en faisant ce documentaire. En travaillant sur ce documentaire, on a réalisé qu'en fait, Sly avait ce don prodigieux pour l'ironie.
Le musicien Vernon Reed a dit quelque chose de très intéressant sur cette chanson qui a eu beaucoup de succès, Hot in the Summertime. Sly est le maître dans l'art de peindre de manière assez surréaliste une réalité qui a beaucoup de sens. Là, par exemple, dans cette chanson, c'est l'image du parfait jour d'été. Il y a du soleil, il y a des filles, mais en fait, c'est une réalité que personne ne vivait à ce moment-là. Ça parle de barbecue, du soleil, des collines, tout est génial. Mais personne ne vivait ça à cette époque. C'était la période post-guerre du Vietnam, post-assassinat de Martin Luther King, post-assassinat de Kennedy, post-assassinat de Malcolm X. C'était probablement l'une des périodes les plus noires, en fait, pour être en vie, encore plus quand on est noir aux États-Unis. Et moi, je pense que Sly utilisait la joie comme un acte de rébellion, une joie ironique. Peut-être que, de son point de vue, il avait besoin de se présenter avec le sourire comme ça pour tout simplement ne pas pleurer. Et c'est ça que la musique représente, faire exister des émotions sans être débordé par ces émotions. C'est planter des petites graines en espérant un jour récolter de plus grandes plantes. Et Sly était tellement un génie que même sa vie est aussi influente que son œuvre. Fun in the Summertime masque ce qu'il se passe déjà après le succès de Stand. On va avoir cette place prépondérante de la drogue. Sly qui est pris en étau avec les Black Panthers qui lui suggèrent de se politiser davantage et donc de limoger les musiciens blancs, Greg Errico et Jerry Martini, et le manager du groupe. Ils bougent ensuite tous à Los Angeles, mais le groupe a du mal à faire autre chose que la fête et prendre de la drogue. Ils n'enregistrent qu'un seul titre dans les années 70-71. Notre ami Sly a de plus en plus de mal à montrer sa tête lors des concerts, de plus en plus fantasque, de plus en plus natique, de plus en plus parano, concrètement. Il engage aussi des proches qui sont en fait plutôt des gangsters pour manager le groupe, de plus en plus de conflits au sein du groupe pour essayer d'alimenter le succès. On va rééditer le premier album jusqu'à la sortie d'un album There's the Riot Going On, avec ce nouveau single Family Affair qui est sans doute l'album le titre le mieux connu du groupe. C'est quasiment la fin, malgré ce mélange de rock, de soul, gay, radieux, joyeux. Et bien après, ça va être la débandade. La débandade tant et si bien que ceux qui ont aimé cette période de Sly and the Family Stone rêveront toujours de cette période bénie. Ceux qui les ont les plus écoutés, les plus aimés, sont aussi les plus influents funkmen de l'histoire. Écoutez ici George Clinton, qui en 93 va inviter et introduire Sly Stone et tout le groupe au Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est un accomplissement. Ça fait déjà à l'époque près de 20 ans que Sly lutte contre la drogue et que la plupart des membres du groupe ne se parlent plus. Écoutez ce qu'il nous dit, George Clinton, de ce qu'a représenté ce groupe.
Wow!
Moi, je pensais que j'aurais plein de trucs à dire en arrivant ici. J'allais être cool, éloquent, intelligent, profond. Et que tout ça allait avoir beaucoup d'effet. Puis je suis rentrée. La première chose que j'ai vue, c'est Larry, Freddy, Jerry, Rosa, Greg, Cynthia. Et j'ai oublié tout ce que je voulais dire. Parce que moi, mon plus grand rêve, vous savez, il y en a qui veulent voir les Beatles se remettre ensemble, mais moi, c'était de voir tous les membres de Sly and the Family Stone réunis dans une seule et même pièce. Et maintenant que je les ai vus, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. C'est la meilleure formation funk de l'histoire. Et Sly est probablement le meilleur chanteur et compositeur que je connaisse. En plus, c'est mon pote. La première fois que j'ai entendu parler d'eux, ça m'a beaucoup énervé en fait. C'était le producteur Dave Capel qui m'a dit, tu sais, j'ai ce nouveau mec qui s'appelle Sly. Il a un label qui s'appelle Stoneflower. Il a un peu le même groove que toi. Hein. Il m'a fait écouter le disque. Et je me suis dit, putain en fait, c'est le meilleur mec que j'ai entendu de ma vie. J'ai signé avec le label, mais mes disques sont jamais sortis. Et pendant des années, j'ai vécu dans leur ombre, en fait. Un jour, je l'ai rencontré. Et puis l'histoire d'amour ne s'est jamais arrêtée depuis. Quand on m'a appelé pour me demander de l'introduire, je me suis dit, Sly, j'ai tellement de choses à dire. Mais bon, mais j'ai oublié à quel point c'était génial, parce que vous savez ce qu'on dit. Si vous vous rappelez des années 60, c'est que vous n'y étiez pas.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Oh, yeah, family affair.
It's a family affair. La plus haute marche du top 100 pour cette chanson et cet album, There's a Riot Going On. Il y a une émeute en ce moment qui se classe à la première place des charts. Instrumentation plus sombre, une batterie plus électronique et beaucoup de sifflements sur l'enregistrement parce que c'est les multiples réenregistrements de la post-synchro puisque c'est Sly qui fait quasiment tous les instruments. Il a à la fois cette volonté de tout contrôler et aussi effectivement d'avoir une idée très précise de ce qui se passe. On vous épargne alors que vous devrez l'écouter Thank You For Letting Me You're Right, qui va avoir beaucoup d'influence, qui sera repris quasiment à l'identique par Janet Jackson dans sa chanson Rhythm Nation en 89. Énormément d'influence pour les deux derniers albums de Sly and the Family Stone avec Sly, Fresh en 73 et Small Talk en 74. Rien ne va plus, la plupart des membres originels sont en désaccord et vraiment l'ambiance n'est plus là. Un son devenu de plus en plus dépouillé et Sly qui post-produit les masters avec énormément évidemment de contrôle, des accueils plutôt mitigés et beaucoup moins de succès public pour ces deux albums qui pourtant veulent influencer directement Herbie Hancock, Miles Davis et bien d'autres. On sait aujourd'hui que ces deux albums de funk ont énormément influé. Beastie Boys, par exemple, va reprendre beaucoup de ses chansons. Elle montre bien, en fait, cette fin de carrière de Sly and the Family Stone, à quel point tout cela a bougé à la fois les lignes du côté de la musique noire américaine, mais tout cela parle aussi à des gens qui font du rock beaucoup plus tard. Prince estime qu'il doit tout à Sly. On a envie, justement, de vous donner à entendre ces derniers albums qui ont moins plu, et notamment une chanson pour se quitter. Une chanson qui nous émeut beaucoup, qui est une reprise de la chanson de Doris Day, Que sera, sera, whatever will be, ce qui adviendra, adviendra, une version gospel chantée par l'inénarrable Sly Stone avant une carrière finalement probablement tuée par la drogue et ce fameux fardeau du succès des musiciens noirs. Que sera, sera, whatever will be. Que sera, sera. Alors évidemment, le futur n'a pas été si brillant que ça pour Sly Stone, qui fera des allers-retours, encore des intoxications, perdra des procès, réussira quand même à faire quelques retours et vivra évidemment grâce à tous ceux qui lui doivent tant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast de la série musicale Tout réécouter. Nous serons là cet été et nous remercions plus que chaleureusement l'incroyable attachée de production de cette émission. Elle s'appelle Laura Dutèche Pérez et elle est aujourd'hui ceinture noire de taekwondo. Notre réalisateur, le merveilleux Thomas Jost, et aujourd'hui à la technique, le sublime Jean-Guilain Meige. Merci à tous et à très vite.